Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Notre but dans ce cours-là, c'est de donner les clés de la compréhension de la Torah des secrets inhérente à la dernière génération, puisque cette Torah, c'est elle par laquelle coule, circule la Géoula, et la Géoula, Baruch HaShem, est déjà commencée depuis la création de l'État d'Israël, on attend juste de la compléter, Be'ezrat HaShem, donc vous devez être associé aussi au vote de mardi. Il est très important de faire partie de ce vote pour être actif dans la Géoula de ce peuple. Il est très important que vous soyez acteur et non pas passif dans tout ce qui se passe sur notre terre, surtout après 2000 ans où nous étions l'ombre d'un être humain. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un État. Nous avons la chance de retrouver notre peuple sur notre terre. Donc, devenez acteur de votre histoire. Il est inconcevable de rester à la maison et de se dire oh, « de toute façon, je ne peux rien faire ». Tout ceci est inclus, bien entendu, dans l'étude des secrets de la Torah. Et c'est pourquoi nous sommes revenus sur notre terre. Ces secrets ouvrent la porte du retour, comme nous l'avons vu dans les paroles du Rav Kook. Nous avons expliqué aussi que la Torah était une prophétie et donc la Torah ne va retenir que ce qui est important pour toutes les générations. Donc à chaque fois que vous étudiez un texte quelconque, il s'agit de vous-même, c'est-à-dire de la compréhension de vous-même. Si par exemple hier dans la journée, vous avez étudié la paracha de Noach, eh bien il s'agit de trouver le Noach qui est à l'intérieur de vous-même. Sans cela, vous ne pouvez pas construire votre propre arche. Sans cela, vous ne pouvez pas éviter le déluge de votre génération. Et vous comprenez qu'en réalité, toute cette Torah ne parle que de vous. Et chacun de nous est cet acteur de la Torah. Nous avons vu que le nom du tétragramme, c'est celui qui génère la vie et c'est celui qui en réalité, donne tous les éléments nécessaires au monde. Sans ce nom-là, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'existence. C'est donc le nom de l'existence et non pas le nom de quelqu'un. On va définir, en fait, le Saint béni soit-il par ce nom, le tétragramme, pour indiquer que le but de tout son être, c'est justement de prodiguer la vie. Nous avons expliqué aussi que toutes les mitzvot ne sont que des canaux qui passent par les appliqueurs de ces mitzvot, les applicateurs de ces mitzvot. Autrement dit, et la mitzvah et moi-même qui l'applique, nous sommes des vecteurs de la lumière divine dans notre monde. Et plus cette lumière se rajoute dans l'existence d'en bas, plus le monde est heureux, plus le monde devient riche dans tous les domaines que nous avons besoin pour justement la vie et le remplissage, entre guillemets, de notre vie, de notre terre, de notre planète, de la parole divine, de sa connaissance, de sa connexion, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Tout ceci pour lui faire, en fait, une résidence dans ce monde qu'il a lui-même créé. On appelle ça les Shemichut, Kutchaberichut, Shrinte, pour qu'il y ait une union entre la source et le résultat. La source étant un côté masculin donneur, le résultat étant un côté féminin receveur. Par définition, nous sommes donc le côté féminin receveur, puisque nous sommes créés et non pas créateurs. Et lui, béni soit-il, c'est le créateur dans le côté donneur. Donc lui donne et nous sommes censés recevoir. Donc pour recevoir, il faut étudier le secret de la réception. En hébreu, la réception se dit Kabbalah. Et donc nous étudions la Kabbalah. Tout simplement, comment recevoir l'abondance du Saint béni soit-il. Je vous demande un instant, j'ai quelqu'un qui tape à la porte et je veux tout simplement, pour ne pas être dérangé, revenir. Je sais que vous avez ça dans tous les cours, mais ça fait partie du direct.
Ah, votre micro est coupé. Hop, il faut juste cliquer pour allumer.
Dessus, mais Anne, oui. Voilà, c'est bon.
Kenna.
Ok, donc tout ceci pour faire le lien entre les mondes, comme je vous l'ai dit. Donc nous sommes les receveurs, nous devons savoir étudier la réception des choses. Donc étudier la réception, c'est étudier Echle Kabel en hébreu Kabbalah. Nous sommes dans le chapitre de la création, Haberia. Nous avons expliqué que la volonté de l'infini était de 4 degrés, les Ha'atzil dans le monde de Hatzilut, Livro dans le monde de Beria, Litzor dans le monde de Yetzira et La'asot dans le monde de Asiya. C'est-à-dire que la création du monde ne se fait pas d'une traite, elle se fait comme une forme de dégradation pour descendre petit à petit jusqu'à arriver à notre monde, à notre existence. Autrement dit, les 4 lettres que vous voyez ici du nom d'Hachem, ce sont des lettres en réalité qui sont aussi une mutation, un développement à partir du Yud qui va devenir un He, qui va donner naissance à un Vav et qui va donner naissance à un He. Donc il y a ici une formation qui se crée et dans toutes ces 4 lettres, nous avons en réalité les différentes étapes pour arriver à notre existence, c'est-à-dire le dernier He. Donc nous devons arriver à l'ouverture, vous voyez que le dernier He est comme une porte ouverte, à l'inverse du chet, qui est une salle fermée. Donc nous devons ouvrir, en fait, la lettre chet pour devenir la lettre he. Quand on ouvre la lettre chet pour que ça devienne la lettre he, eh bien nous créons en fait une circulation d'énergie. Et c'est la différence entre le chametz et la matza. Donc Akadosh Baruch Hu nous prévoit dans ce monde une place dans laquelle il va dévoiler sa volonté. Quand on parle de sa lumière, on parle de sa volonté, on ne parle pas de lui. Lui, on ne peut pas accéder à sa connaissance parce qu'il nous dépasse complètement, il est de l'ordre de l'infini, que nous ne pouvons pas comprendre. Ce qu'il veut bien nous faire passer dans notre monde, c'est ce qu'on a ratson. Son ratson, c'est sa volonté. On appelle ça son shem, son nom. Et donc, à chaque fois qu'on parle du nom d'Hachem, on parle de sa volonté. En hébreu, le mot ratson et le mot shemo, c'est la même valeur numérique. Donc, on ne parle que de ce qu'il veut bien nous donner, et non pas de lui. Attention. Parler de lui, c'est de la Avodah Zara. Parler de sa volonté, c'est l'étude du judaïsme. Donc, toutes les lettres de la Torah, tous les mots de la Torah, ne sont que sa volonté. Ce n'est pas lui. D'accord ? Sa volonté, c'est ce que nous pouvons, entre guillemets, recevoir. C'est pour ça que la Torah parle à un langage que nous sommes capables d'appréhender. Donc, la Torah se met à notre portée pour dévoiler sa volonté. Ce n'est pas lui, c'est sa volonté. Vous allez me dire, oui, mais chez lui, lui et sa volonté ne font qu'un. C'est vrai, mais pour nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un monde dispersé, entre guillemets, binaire, et donc, nous devons faire les choses au fur et à mesure. Je ne peux pas être ici et ailleurs en même temps. Chez lui, ce n'est pas du tout le cas. Il peut être ici et ailleurs parce qu'il remplit le tout. Donc moi, je suis dans un monde où les éléments se font par le temps, l'espace et l'identité que je représente. Donc il va préparer pour moi un vide, ce qu'on appelle le halal panoui. Dans ce halal, il y aura en réalité une place où la lumière infinie ne se dévoile pas comme elle se dévoilait avant, justement pour nous laisser l'existence. Et c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction. C'est la contraction de sa pleine lumière, parce que dans cette pleine lumière, personne ne peut exister, à part lui. Il est dans sa pleine lumière. Cette lumière est tellement grande qu'il n'y a de place pour rien d'autre. Et donc, il va faire, entre guillemets, l'inverse. Il va créer un noir, il va créer un manque de dévoilement. Et c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, comme s'il avait jeûné. Donc le mot jeûné en hébreu, c'est la tzum, c'est la même racine que tzimtzum. C'est-à-dire, il y a comme un vide créé à l'intérieur de moi. Et dans ce vide-là, il va faire en sorte de cacher son dévoilement. Quand il cache son dévoilement, eh bien, nous pouvons commencer un tout petit peu à respirer, tout simplement à être. C'est un paradoxe. Je ne peux être, moi, le vivant, que là où Dieu se cache, entre guillemets. C'est incroyable. Parce que s'il se dévoile de sa pleine lumière, je ne suis plus. En tout cas, pas comme je suis maintenant. Je suis complètement avalé, happé par sa lumière, et je disparais dans sa lumière. Donc, pour me laisser une apparence, une existence, c'est comme s'il avait diminué l'intensité de sa lumière. Mais ce n'est que par rapport à moi. Chez lui, il n'y a rien qui a changé. Alors comment ça se passe? Eh bien, en créant des écrans entre cette lumière et moi. Ces écrans, ça va s'appeler donc les séphirot. Donc chaque séphira est comptabilisée, donc elle est mesurée. C'est pour ça qu'on les appelle les séphirot. Séphirot, ça vient du mot mispar. Donc, je peux les compter. Si je peux compter, cela veut dire que c'est limité volontairement. Ça limite quelque chose. Sinon, je n'aurais pas pu compter. Donc, dès que je peux compter, je peux donc mesurer. Et donc, au fur et à mesure que les sphirotes se rajoutent, l'une après l'autre, l'écran s'épaissit, devient épais, s'épaissit. Et donc, je reçois sa lumière après ces 10 écrans, qui sont les 10 sphirotes, et cette lumière, maintenant, peut être acceptée par moi parce qu'elle n'est plus avec l'intensité du départ. Elle est passée par 10 filtres et je peux tout simplement la recevoir et vivre avec elle. Donc, nous sommes en réalité à l'ombre de sa lumière. Celui qui a compris ça, c'est Betzel El. Il s'appelle à l'ombre de sa lumière. Et c'est ça, Betzel El, Betzalel. Betzalel, ce n'est pas le nom d'un type, c'est le nom de celui qui se trouve à l'ombre et qui peut, dans l'ombre de notre existence, révéler la lumière divine. Vous avez compris? Donc, il va être capable d'élaborer le temple, qui est en réalité une structure, à notre niveau humain, de toutes les valeurs de la volonté divine. Et quand je rentre dans ce temple ici-bas, eh bien, je peux savoir ce qu'il veut, lui, là-haut. Je suis dans une ambassade qui est avec des mesures, pourtant non mesurables. Et ça, c'est un autre secret, mais toujours est-il que nous sommes dans un monde de contraction, dans un monde de diminution de sa lumière. D'ailleurs, le mot contraction veut dire ce qu'il veut dire. C'est contre l'action première. Son action première, c'est de donner la lumière. Et là, il va contre l'action. Donc, c'est une contraction. Il va diminuer la lumière. C'est incroyable. C'est comme la mère, pour accoucher un bébé, elle va faire une contre-action. Jusqu'à maintenant, elle retenait la vie en elle, comme nous, dans la lumière divine. Et dès qu'il y a une contre-action, eh bien, le bébé va sortir. Et nous aussi, nous sommes nés. Vous avez compris? Donc, il faut des contre-actions pour définir, pour dévoiler. La forme que les sages vont donner à ce lieu, c'est un cercle. Un cercle, mais une sphère. Pas un cercle plat, pas un disque plat, une sphère, comme un ballon. À l'intérieur de ce ballon se trouve tous les mondes dans lesquels nous sommes, et même ceux qui nous dépassent complètement. Et la lumière infinie, bien entendu, qui n'a jamais disparu, elle a juste été cachée. Eh bien, au fur et à mesure de l'histoire humaine, cette lumière de l'infini pénètre et éclaire de plus en plus ce ballon. À un moment donné dans l'histoire, nous arriverons à ce que le ballon va être complètement rempli de cette lumière infinie, donc nous allons revenir, nous aussi, à l'infini. Nous allons nous perdre dans cet infini. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Ben, tout simplement qu'au départ, ça nous a été donné gratuitement, et que là, nous avons été mis dans un monde où il y a 6 000 ans de temps pour justement revenir à cette grande lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 6000 ans ? Donc, nous avons été envoyés à faire un stage de 6000 ans, c'est la méthode assimile, Ken, pour justement assimiler cette lumière et petit à petit être capable de la recevoir, de la concevoir, en tout cas sa volonté. Jusqu'au moment où la terre sera remplie de cette lumière, comme dit le prophète, il arrivera un temps où, comme l'eau remplit la baignoire de l'océan, de la même manière, la connaissance de Dieu remplira la baignoire de notre monde. Ça veut dire que le monde sera tellement rempli de sagesse qu'il n'y aura même plus besoin de rabbanim. Les rabbins vont être à la retraite. Vous allez connaître les secrets de la Torah, toute la Torah de vous-même. Qui a d'ouoti et d'ouoti le miketanam ve'ad gedolam. Donc tout le monde va avoir la connaissance de Dieu, des plus petits aux plus grands. Loïl medouot, il n'y aura même plus besoin d'étudier, on sera naturellement porteur de la lumière divine et on vivra selon cette lumière naturellement. Comprenez que donner un cours, ce n'est pas quelque chose d'idéal. Parce qu'il y a de la violence de celui qui enseigne par rapport à celui qui reçoit l'enseignement. Donc ce n'est pas très sain. La lumière divine devrait nous arriver directement à chacun d'entre nous, naturellement. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Pour l'instant, on a la chance d'étudier, mais ce n'est pas en fait l'idéal des choses. L'idéal est toujours à la fin, c'est ce qui va se dévoiler à la fin. Pourquoi la forme est circulaire de ce ballon ? Tout simplement pour nous dire que par rapport à l'infini, nous avons tous la même distance. Donc ne te prends pas pour un génie. Par rapport à l'infini, nous sommes au centre, entre guillemets, de ce ballon, et la distance par rapport à l'infini, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu es dans l'absolu pas plus grand qu'une pierre, qu'un morceau de caillou, par rapport à l'infini. Mais par rapport à notre existence, nous avons des échelles. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Encore une fois, 4 degrés correspondant eux aussi aux 4 lettres du tétragramme. C'est-à-dire, je vais retrouver en fait toutes les apparitions de ce nom dans la réalité de ma vie. Il arrivera un temps, Be'ezrat Hashem, où je vais vous faire un tableau qui va donner toutes les références de ces 4 lettres par rapport, par exemple, aux directions. Pourquoi il y a 4 directions ? Bien, c'est encore une fois grâce à ces 4 lettres, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pourquoi il y a 4 formes de métaux ? Pourquoi il y a 4 éléments dans ce monde ? Pourquoi il y a 4... Sans arrêt. Tout se fait en réalité, c'est une valse à 4 temps. D'accord ? Pour dévoiler l'infini. Donc, si vous voulez danser, c'est les shiurim de Torah, c'est une danse, c'est une valse israélienne à 4 temps. Donc, moralité, ce ballon va faire en sorte de révéler à l'intérieur de lui, va pénétrer comme un faisceau de lumière et va remplir. Alors, je vais donner l'exemple d'un oignon. Alors, imaginez-vous un oignon qui est bien rond et vous voyez les pelures d'oignons. Il y en a des centaines, des milliers. une au-dessus de l'autre, une au-dessus de l'autre. Tu as beau éplucher, il y a encore. Mais c'est la même chose. Imaginez-vous maintenant que vous preniez un oignon et que vous perciez l'oignon avec une épingle. Eh bien, cette épingle, autour de l'oignon, à l'extérieur, c'est l'infini, c'est la lumière infinie. L'oignon contient tous les mondes qui vont venir et l'aiguille que vous avez plantée dans l'oignon, c'est le trait d'union entre l'infini qui entoure l'oignon et toute la vie qui va être à l'intérieur de l'oignon. On est ensemble ? J'ai, Baruch Hashem, la chance d'être artiste peintre, donc j'utilise ma Torah avec des expressions et des formes pour que vous les compreniez bien. Et ça m'aide, j'espère que ça vous aide aussi. Donc, moralité, à chaque fois que cette épingle touche une pelure, elle diffuse la lumière de l'infini sur toute la pelure. Vous comprenez ? D'une manière circulaire. L'épingle va rentrer un tout petit peu, il y aura une autre couche qui va être elle aussi imprégnée de toutes ces lumières. Et au fur et à mesure, on descend. C'est comme ça que l'infini revient dans le monde qu'il a lui-même créé. On a appelé ça la teshuva de l'infini vers le fini. La teshuva de Dieu. C'est le retour de Dieu dans son monde. Ce nom avec lequel on pénètre cet oignon s'appelle, l'un de ses noms, c'est le Shin Dalet Yud, celui que vous avez dans les mezuzot. Ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois que vous passez d'un domaine à l'autre, c'est comme si vous rentriez cette épingle d'un degré à un autre degré, donc ce nom-là va vous accompagner. Alors, le voilà, ce nom, et dans les nations du monde, où ils ont pris toujours, nous sommes les références de tout, ça s'appelle le retour de Jedi. Ils ont fait un cours avec ça, mais c'est en fait ça, c'est exactement ça, le retour du Jedi, mais comme ils ne savent pas dire le Shin, alors c'est devenu un Jedi, mais c'est le retour de l'infini dans le monde fini. Bien entendu, dans la mathématique moderne, c'est le chiffre pi, 3,14, qui est un chiffre jusqu'à l'infini, c'est-à-dire le lien entre le cercle et la droite qui va pénétrer ce cercle. Je reviens. Vous voyez, même le cinéma nous pompe les idées. On devrait recevoir des royalties sur tout. Autour donc de cette oignon, dans l'existence dans laquelle nous sommes tous, continue la lumière infinie sans limite, sans mesure, comprenez. On ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Nous sommes limités dans ce petit oignon qui est à la grandeur de l'univers. Imaginez-vous, c'est-à-dire que pour nous, c'est l'infini, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas les limites de l'univers, mais tout ça, c'est dans l'oignon. Et donc, nous sommes là face à quelque chose d'incommensurable, d'impénétrable, et donc nous devons nous suffire de ce quand lui vient vers nous, parce qu'on ne peut pas aller vers lui, vous comprenez pourquoi maintenant ? Tu es tellement petit, comment tu vas aller vers quoi ? Donc, attends que lui vienne vers toi. Toute action contraire, où c'est toi qui cherches à aller vers, c'est déjà de la Avodah Zarah. Tu fais n'importe quoi. Parce que tu as affaire à l'infini, donc vers quoi tu vas ? Donc, garde ta place, sois dans l'humilité. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu sur le mont Sinaï, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui nous donne la Torah, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui, c'est toujours lui. Je n'ai rien fait de moi-même, je n'ai jamais rien cherché. Si tu cherches, alors tu vas inventer une religion. Mais ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est l'infini qui cherche l'homme. C'est l'infini qui est venu vers l'homme. C'est l'infini qui a créé le fini. Donc, toute La direction du judaïsme, d'une manière générale, c'est toujours de lui vers nous, de l'infini vers le monde qu'il a lui-même créé. Et le judaïsme, lui aussi, c'est la circulation de l'infini dans le monde, dans cette union dans laquelle nous sommes. Comment ça se passe? Eh bien, les sages nous donnent l'exemple de quelqu'un qui lance une pierre dans une flaque d'eau, et vous voyez que la pierre va faire des cercles de plus en plus qui s'élargissent. Eh bien, vous avez l'image ici un tout petit peu de ce qui se passe en réalité par rapport à ce point central où il y a une augmentation de la distance d'une manière circulaire. Puisque nous parlons de la volonté infinie, béni soit-il, nous devons donc nous affairer au Ratzon HaPashut. Kshe'ala Birtzono, tout ce que je vous lis maintenant, c'est du Arizal. Ken? Moi, je ne fais que écrire après un petit commentaire, mais tout ce qui est en gras, c'est le Ari HaKadosh. Et donc, Kshe'ala Birtzono HaPashut, je reprends la terminologie, le choix des mots du Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, Zchuto Tagen Alenu Amen. Quand il est monté dans sa pensée simple, donc infinie. Quand on dit simple, ce n'est pas une pensée composée. C'est ça le sens du mot simple. Ce n'est pas dans le sens simple, imbécile de notre monde. C'est quelqu'un de simplé. Là, au contraire, sa volonté est tellement pure qu'elle est simple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas composée. Parce que si elle était composée, ça voudrait dire Chas Veshalom, qui lui-même est composé d'éléments. Alors que c'est l'unité, l'unicité parfaite, indivisible, incompréhensible à l'homme. Alors même sa volonté est de cette envergure-là, de cette simplicité. Vous êtes avec moi ou vous êtes dans une hypnose ericksonienne, ça va? J'aimerais voir un petit peu des sourires ou des trucs, ou bien faire la gueule, je ne sais pas, mais une réaction, ça serait bien. Ah voilà, ça va mieux maintenant, je vois. Alors, cette façon d'exprimer les choses, Anisuach Hazé, Baleorot ki abrea inamitsa daechreach, vient nous dire qu'en réalité, la création n'est pas obligatoire pour lui. Avec des mots simples, il n'était pas obligé de créer le monde. OK ? Toute sa création, ce n'est que pour nous, que par rapport au receveur. Lui, ça n'a rien changé avant la création, pendant la création, après la création. Rien. Donc en réalité, il n'est même pas obligé de créer. Donc il est dans la liberté absolue de créer. Donc toute la création a été faite par sa liberté infinie. Et c'est très important de comprendre ça. Donc, il y a une chérout, il y a une liberté ensofit, infinie, mukhletet, absolue. Mina ratson a pashut. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle ici le Ari HaKadosh utilise cette sémantique lorsqu'il est monté dans sa volonté simple, indivisible, c'est-à-dire absolu, de créer le monde. Je répète, petite conclusion, la création du monde n'est pas une obligation. Il aurait pu rester lui seul sans la création. Achlit Abria. Alors pourquoi créer le monde? C'est quoi le but? Réponse immédiate, les Hetiv. Tout ça, c'est le Ari HaKadosh. La création du monde, c'est pour donner le bien, car lui, c'est le bien. Or, qu'est-ce que c'est que le bien? C'est le fait de faire vivre, d'octroyer la vie, de diffuser la vie, d'amplifier la vie. D'où est-ce que je sais ça? Mais à la création du monde, à chaque fois que Dieu crée, il dit que c'est bien. Donc, je comprends que le bien, c'est rajouter encore quelque chose dans la création. Chaque fin de journée de création du monde, Vayar Elohim Kitov, il voit que c'est le bien. Donc, il nous enseigne à nous, puisque c'est la Torah, que le bien, c'est quoi ? Bien, c'est de rajouter de la vie. Donc, quand je peux sortir maintenant dans la rue et faire le bien autour de moi, ben, tout simplement en rajoutant la vie à celui qui est en face de moi. Alors là, je vous vois, et mon but, c'est de continuer cette vie, parce que ce n'est pas moi la source de la vie, c'est toujours lui. Mais mon but, c'est de vous faire vivre d'une manière plus intense après le cours. C'est-à-dire, pendant le cours, ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement de vous donner des informations au niveau de l'étude, mais le but vraiment ultime de ce cours, c'est que vous deveniez des vivants, encore plus vivants, après le cours qu'avant le cours. Vous comprenez ? C'est énorme. Ça veut dire que votre intensité de vie, la vie devrait vous traverser d'une manière beaucoup plus forte. Ça veut dire si ce matin vous étiez dans l'angoisse, dans la peur, dans certaines catégories d'être coincé dans une certaine léthargie, dans une fatigue corporelle, mentale, physiologique, psychologique, eh bien, le fait de générer cette vie par l'étude que nous faisons, ça devrait vous amplifier la circulation de la vie à l'intérieur de vous. Ce n'est pas moins que ça. Et c'est pourquoi la Torah nous dit « Etz chayim hi la machazikim ba ». Tout ce que nous faisons ici, c'est tout simplement amplifier la vie. Comment on appelle la vie ? Bien, c'est le tétragramme, c'est tout simplement. Donc, si je rajoute de la vie dans ce monde, eh bien, je dévoile le nom du tétragramme dans ce monde, le Yud-Ké Vav-Ké. Finalement, je deviens actif, je deviens actionneur, je deviens représentant de la lumière qui passe par moi, si je suis un vecteur propre, pour arriver à ceux à qui je parle. C'est compris ? Donc le rôle du Rav, c'est de raviver. C'est un jeu de mots. Okay ? C'est-à-dire le Rav devrait vous amplifier la vie. Donc vous devriez avoir un sourire sur le visage tout le temps. C'est ça le secret. Plus nous sommes vivants, plus on éloigne l'inverse de la vie, donc la mort. Et c'est ce qui va arriver à la fin. Pourquoi la mort sera éradiquée du monde ? Justement, parce qu'il y aura tellement de vie que la mort n'aura plus sa place. Donc la mort était momentanée. Et la vie, c'est le grand gagnant. Donc plus nous allons amplifier cette vie, plus nous allons être vivants. Donc, tout le but même de la création, c'est de faire du bien. Heureusement qu'on n'a pas demandé ça aux religieux. Si on avait demandé quel était le but de la vie, ils auraient dit Torah et Mitzvot. Okay? Mais en réalité, Torah et Mitzvot, c'est les moyens pour ça. Parce que la Torah, ce n'est pas un texte. La Torah, ce n'est pas un bouquin. La Torah, c'est la vie. Alors c'est vrai qu'il faut appliquer la Torah et les mitzvot justement pour amplifier cette vie parce qu'elle circule à l'intérieur de cette Torah et ses mitzvot. Mais attention de ne pas croire que la Torah c'est un livre. La Torah c'est pas un livre. La Torah c'est la vie. Un jour elle a été recopiée sur du parchemin. Mais ne confondez pas le parchemin avec la vie. Le parchemin va vous aider à étudier la vie. Mais la vie est bien avant le parchemin. D'ailleurs, je pense même qu'on l'appelle parchemin parce que c'est par ce chemin que la vie passe. Mais faites très attention. Ratzona Atava, donc cette volonté de faire du bien autour de soi, donc d'amplifier la vie, moi, je dois devenir pareil. Toi aussi, Yaakov. Toi aussi, Yaël. Toi aussi, Monsieur Ben Saïd. Toi aussi, Jacqueline. Toi aussi, Richard. Chacun doit être amplificateur de cette vie dans l'entourage qu'il a autour de lui. Donc cette volonté de faire du bien, elle commence par l'infini béni soit-il. Donc elle est divine. Rovila l'ébria. Elle a acheminé, elle a fait en sorte qu'il y ait des créatures. Une création tout entière. Parce que justement, pour faire le bien, il faut quelqu'un qui reçoive ce bien. Je ne peux pas balancer du bien dans le vide. Donc, pour que quelqu'un reçoive ce bien, eh bien, le Créateur a créé des créatures. Vous êtes avec moi ? C'est logique complètement. Pour que dans cette création, il y ait des receveurs, des réceptacles de cette bonté. On les appelle les créatures, Hanivraim. Donc nous avons été, je résume, créés pour kiffer. Nous avons été créés pour vivre. Nous avons été créés pour traduire la vie dans la vie. Nous avons été créés pour amplifier la vie dans ce monde. Tout ça, ça veut dire pour révéler le nom du tétragramme. Vous comprenez comment on est loin de cette compréhension? Et donc, plus je suis vivant, plus je suis vital, bien plus je respecte la volonté du Créateur. Vous comprenez? C'est pourquoi un enfant est tellement vital que les adultes, ça les agace. Parce que les adultes sont un petit peu plus proches de l'inverse. Donc, eux, ils veulent toujours se reposer. Alors que pour l'enfant, aller dormir, c'est une punition. C'est incroyable. Pour vous, il n'y a pas plus grand plaisir d'aller au lit. Pour un enfant, on dirait que tu le punis. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement vital, il est tellement empreint de vie, qu'il est tellement propre. Et qu'est-ce qui fait qu'on a changé depuis notre enfance où on courait tout le temps comme des petits bouchons qui sautent sans arrêt ? Et on est devenu ce qu'on est devenu, paresseux, fatigant. Oh là là, je ne vais pas encore prendre la voiture maintenant, même pour faire 3 km, tu es fatigué. Pourquoi c'est devenu comme ça ? Ben tout simplement parce que malheureusement, au lieu d'amplifier la vie, on la diminue. Alors qu'il faudrait rester toujours comme cet enfant. Ce n'est pas par hasard que Rabbi Nachman de Breslev, il dit « Je hais les vieux ». Comme ça, il dit, c'est terrible, terrible. Qu'est-ce que ça veut dire « Je hais les vieux » ? Ce n'est pas qu'il n'aime pas les gens qui ont vieilli. Bon, lui-même, il n'a jamais vieilli, il est parti de ce monde à 37 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je hais les vieux » ? Je hais la vieillesse, je hais le degré où l'homme n'arrive plus à rester enfant comme il était au départ. C'est ça. Cette intensité de vie. Donc, « yesh le'avin, kilom edubar b'shum shinui miprinato » Je répète ici parce qu'il est très important de répéter, de comprendre cela. Lui, béni soit-il, n'a rien changé en lui. Encore une fois, dès que vous prêtez une intention de changement chez le Créateur, vous le considérez comme quelqu'un qui est limité. Il n'y a que quelqu'un qui est limité qui change, vous comprenez ? Si tu es le tout, il n'y a plus de changement, il n'y a pas de changement. Changement égale amélioration. Vous voulez me dire que lui doit s'améliorer ? Chas v'shalom. Donc chez lui, le changement n'existe pas. Un verset le dit complètement chez le prophète. Ani Adonai loshaniti. Attention de me prêter des intentions qui ne sont pas vraies. Je ne change pas, le changement n'est pas chez moi, parce que je ne suis pas dans le « deux ». Or, le mot « shinui », c'est toujours « schneim », comme la seconde, comme la plus petite mesure du temps, dans tous les langages. Chez Dieu, le temps n'existe pas, il est à l'infini. Donc, le changement n'existe pas. Donc, tout ce qui a été créé, ça n'a rien changé chez lui. Alors, où, chez qui ça change ? seulement pour ceux qui ont été créés, c'est-à-dire les créatures. Kol Achidush, donc toute la nouveauté, Eino, n'est que Ela Mitzad Mishen Nivra. C'est seulement chez ceux qui ont été créés, donc sortis de cet infini, entre guillemets. Kedele Kabel ou le Achil Haratson Aelion. Chez nous, les receveurs de cette volonté divine de vie, eh bien, nous sommes dans le deux, effectivement. Nous sommes dans l'évolution, dans la perfectibilité continuelle, effectivement. Parce que nous sommes dans un monde temporel, dans un espace-temps. Et parce que quand je suis là, je ne peux pas être ailleurs, comme lui. Lui, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Moi, je suis là, je ne suis pas là-bas. Donc, moi, je suis limité. Alors, dans mes limites de vie, je dois recevoir cet infini. Pas évident. Hein? Sans pour autant quitter le monde binaire dans lequel je suis. Attention, hein? Si pour retrouver Dieu, tu dois mourir, tu n'as rien fait. C'est ça le secret. C'est de le dévoiler de notre vivant. Et on le dit dans le Hallel. Lo hametim, yehalleluya. Lo kol yordei duma, anachnu nevarechia. Lo amut ki echie va'asaper ma'aseya. Jusqu'à demain matin, je peux vous citer des versets qui disent que ce n'est pas dans la mort que tu te rapproches de lui, mais dans la vie. Donc ça ne sert à rien de vouloir mourir. C'est ici que ça se passe. Et donc, nous devons recevoir cet infini tout en étant dans ce monde fini. Alors, comment ça se passe, ce paradoxe? Comment l'infini se marie avec le fini? Ça, c'est déjà un cours à part entière. Mais Bezat Hashem, nous allons y arriver. Donc tout ceci, Kedele Kabel ou l'Achil Aratzon Aelion, nous devons recevoir et contenir cette volonté divine dans notre vie de tous les jours. Donc le 1 se dévoile dans le 2. Vous avez compris? Le 1, béni soit-il, se dévoile dans le 2 dans lequel je suis, parce que je suis dans un monde qui est le 2. Donc la Torah commence par Bet. On est dans un grand 2. Et lui, c'est le grand 1. C'est tout. Donc, à chaque fois que le 1 va donner quelque chose, chez nous, ça va arriver en 2. Par exemple, il va nous donner sa Torah. Dès que ça traverse l'atmosphère humaine, ça devient 2 tables. C'est bizarre, ça. Alors que Dieu donne la Torah, quand elle arrive dans mon monde, dans ma vie, elle ne peut plus être perçue comme une. Pour l'apercevoir, je dois avoir deux. C'est un secret extraordinaire. Donc Dieu va nous créer deux oreilles, deux yeux, pour justement recevoir, absorber. Donc je ne peux pas écouter un cours de Torah si je ne suis pas à deux. Minimum. Ça s'appelle une chavruta. Et les chachamim, ils te disent méchamment, hein. Ils te le disent pas gentiment, ils te disent ou c'est à deux ou tu meurs. O chavruta, o mituta, chas v'shalom. C'est-à-dire, il est impossible de recevoir la Torah si tu n'es pas deux. Donc le un ne peut se révéler que par le deux. David Amelech a compris ce secret dans Tehilim 62. Et il nous dit, « Achat, diber Elohim, lui c'est le 1, donc il parle 1, shtaim zu shamati. Moi je suis obligé d'entendre 2. » Vous avez compris? Donc à chaque fois que vous entendez quelque chose, essayez de recevoir au moins 2 sons de cloche. envie d'être indécent. Moralité, Briata Olam, Eina Begeder Tosefet Mitzidoid Barach. Pour lui, il n'y a rien qui a été rajouté ou enlevé quand il a créé le monde. Rien. Rien de rien. Et toute la création, avec tous les buts de cette création, tout ça, et inan mitiachasot, ela la nivraim bilvad. Tout ceci ne concerne que les créatures et les créations. Simplement. Pourquoi? Letovatam ulhanaatam. Pour leur bien et pour leur plaisir. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu me crée des fruits jaunes, rouges, oranges, des fleurs bleues, c'est pour qui? C'est pour mon plaisir. Si c'était juste pour manger, tout aurait été de la même couleur. Le fait qu'il y ait des couleurs et des nuances dans toute la création de ce monde, dans la nature, ce n'est que pour justement amplifier mon plaisir. Donc Akadosh Baruch Hu veut que j'ai du plaisir. Et si, je répète, je ne vis pas dans ce plaisir, je suis dans la faute. Vous comprenez ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans la simra, c'est pas seulement qu'il est mal dans sa peau, c'est qu'il est en train de fauter, sans le vouloir, le pauvre. Donc, il faut vite le guérir. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un qui n'est pas dans la simcha. Parce qu'il est en train de vivre à l'encontre de la volonté première du divin. Donc, il vit moins. Il est moins traversé par l'intensité de la vie. Tu comprends, Gabriel? C'est très important. Babria. Donc, dans le monde dans lequel nous sommes déjà dans le monde de la création, quand on dévoile le bien de Dieu, eh bien, nous devenons associés. Vous avez envie d'être associé? Ben oui, c'est ça votre rôle. Surtout quand vous faites partie du peuple d'Israël. Mais pas seulement. Si je vois un oiseau joli, beau, avec un sifflement magnifique, avec des couleurs chatoyantes, bien cet oiseau-là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient amplifier chez moi le plaisir. Donc il devient tzaddik. Parce que grâce à cet oiseau beau avec un chant magnifique, je suis plus heureux. Donc cet oiseau-là, quand on va lui parler dans le ciel, on va lui dire « Mon cher oiseau, tu as rendu telle personne heureuse ce matin. » Et l'oiseau va dire « Merci beaucoup. » Mais c'est ça son rôle. Eh bien, vous devenez pareil. Quand tu sors dans la rue, tu dois être belle. Tu dois te maquiller. Tu dois être propre. Tu dois avoir une belle robe. Tu ne dois pas être négligé. Mais où on a vu ce judaïsme qui néglige tout? Chez toi, ça doit être propre et rangé. Dans ton entourage, il est inconcevable de jeter des papiers et des machins par terre. Tu énerves les gens qui veulent vivre avec une intensité de vie. Vous comprenez comment c'est important tout ça? C'est énorme, Rabotaï, ce n'est pas juste en étudier un texte de la Torah. Arrêtez de diminuer la Torah à un petit truc. Et donc, je devenir un associé, shutafim, leofat aratzon, pour faire apparaître la volonté de Dieu. Hamechuna, et comment il est appelé? Geoula. Le ratson de Dieu, quand je le fais dévoiler dans ce monde, ça s'appelle la Géoula. Alors vous dites tous, ouais, on veut la Géoula, on veut la Géoula. Mais voilà, c'est ça la Géoula. C'est tout simplifié, tout simplement, amplifier la volonté de Dieu et la dévoiler dans ce monde. C'est ça la Géoula. Qu'est-ce que vous croyez que c'est la Géoula? Alors, c'est sûr, alors vous l'avez dessiné sous forme d'un bonhomme, vous l'avez imaginé rabbin, qui sonne du chauffard, j'en sais rien, moi, mais c'est tout ça, c'est un seul but. Pourquoi tout ça? Pour que la vie soit gagnante sur la mort. C'est ça la Géoula. Et si tu vois que la vie s'amplifie au fur et à mesure que l'histoire commence, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans tout ce processus. Donc, oy vavoy, si on vous dit que notre génération est pourrie, qu'elle ne mérite pas la Géoula, qu'on est en train de nous éloigner de tout, chas v'chalila, il n'y a jamais une génération où il y a eu autant de gens qui sont dans cette optique, dans cette étude, dans cette grandeur. Ah, mais ce n'est pas comme on m'a dit. C'est ça le problème. C'est tout. Ce n'est pas ce que je peux penser. Mais oui, mais c'est ça le problème. Kol gilui mosif havaya. Chaque révélation. Yitzhak, tu vas sortir de ce cours, tu vas rajouter de la vie autour de toi. Klomar menat chaim, tu vas rajouter encore un kilo de vie à quelqu'un autour de toi. Tu vas appeler quelqu'un au téléphone, tu vas réjouir quelqu'un. Tu sais ce que tu viens de faire? Eh bien, tu deviens comme Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est-à-dire, j'ai donné maintenant du plaisir comme Akadosh Baruch Hu veut que je sois dans le Tov, moi aussi je continue le Tov en parlant à quelqu'un, à Nili, pour lui dire que voilà, la lumière, je te la donne. C'est pas beau ça? Mais c'est ça en réalité. Klomar menat chaim laolam vekol zetaloui bamekablim bilvad. Et donc tout ceci, ça concerne qui? Eh bien ceux qui reçoivent. À condition que tu saches recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est que bien recevoir? Donner. Partager. Vous avez compris le paradoxe? Je ne suis un mekabel que lorsque je suis un mashpia. Donc, je deviens un mekabel almenat leashpia. Voilà comment je fais une hashvat atzura et comment je deviens divin dans ce monde. Alors pourquoi je ne suis pas mashpia directement? Attention, tu n'es pas Kadosh Baruch Hu. C'est d'abord Mekabel. Un peu de Hanava, un peu de Tzniut. Kulano Mekablim. Ok. Az ech nilmad lekabel? תקבל על מנת להשפיע, תלמד קבלה, זה מה שמלמדים בתורת הקבלה. C'est ça qu'on enseigne dans la Kabbalah. C'est pas des formules pour voler dans l'air. Les gens, ils me font rire, ils ont l'impression que les kabbalistes, ils apprennent des trucs pour nous bien mettre. On t'apprend à être un vrai mekabel, puisqu'en face de nous, il y a un noten. Baruch ata Hashem noten. Im ata noten à Torah, je veux être un mekabel. Alors comment je suis mekabel? En devenant moi-même noten. Vous avez compris? C'est, je ne sais pas, moi quand j'ai étudié tout ça, tout ce que je suis en train de vous enseigner, je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était une révolution pour moi. Hashef anover mina echad amuchlat. Et toute cette bonté, elle vient d'un seul. Il n'y a pas deux. En od milvado. C'est l'absolu, béni soit-il. C'est l'éternité. El hashofato, mais l'apparition de ce un. Elle va s'habiller de différentes manières. Vous avez compris? C'est tout. C'est ça le secret. Je crois qu'il est temps de poser des questions. Donc tout dépend de nous comme receveurs de ce message divin de vie que nous devons partager. Alors, je vous ouvre la possibilité des questions, s'il vous plaît.
Il y a Evelyne. Madame Garoua, vous avez une question ? Votre micro est éteint.
Alors, j'ai des questions ici dans le chat.
Alors, Ken, on t'inscrit dans le chat et le temps que Madame Garoua...
Alors, l'oignon, si chaque mouvement vers lui est Avodah Zara, comment expliquer la recherche de la Dvekout ? Eh bien, justement, à l'envers. C'est-à-dire le laisser te venir vers toi. C'est ça, la Dvekout. La Dvekout, c'est agir selon ses formes à lui. Si lui est Rachoum, toi-même, tu deviens généreux, miséricordieux, et c'est ça la Dvekout. Il se colle à toi, c'est pas toi qui monte. Ok, c'est ça la Tchouva de Dieu. Eh bien, exactement, c'est ça la Tchouva de Dieu. C'est Dieu qui revient dans le monde de la création. L'oignon est le monde où le halal panouille dans l'analogie. Eh bien, le monde est à l'intérieur de cet oignon. Tout notre monde, ce sont des pelures d'oignon. Vous savez que même les étoiles que vous voyez dans le ciel à différents niveaux, en réalité, ils sont placés sur des couches différentes. C'est comme s'il y avait des couches transparentes et il y avait sur cette couche 200 000 étoiles, sur la couche plus intérieure encore 400 000 étoiles, et ainsi de suite. Ce n'est pas n'importe quoi jeté en l'air. Et la teshuvah de l'homme, c'est justement de participer à la teshuvah de Dieu. C'est-à-dire, étant donné que c'est Dieu qui revient dans ce monde, aide-le à revenir. Circule dans le même sens que lui pour justement amplifier la vie.
On arrive toujours au résultat qu'il manque quelque chose à Dieu. S'il a fallu qu'il fasse une création...
Non, je l'ai dit au début... Toute cette création ne rajoute pas pour lui quoi que ce soit, ni enlève chez lui quoi que ce soit. Tout ça, c'est pour les créatures, les créations elles-mêmes. Il n'a rien besoin, c'est le chofesh mukhlat de créer ce monde ou de ne pas le créer. Il aurait pu rester tout simplement sans créer le monde. Il est plein de tout. Il n'a rien besoin. Seulement pour donner à quelqu'un la sensation de cette grandeur. C'est ça le tov. C'est-à-dire, je suis tranquille avec ce que j'ai, mais j'ai envie de faire partager quelqu'un. Ça, c'est autre chose.
Il a une envie.
Je traduis avec des mots humains, parce que je suis en train de parler un langage humain. C'est pour ça qu'on appelle ça « ratson pashut ». Et pas ratson comme le ratson de l'homme. C'est là le mot pashtou du Harizal que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Alors, il y a une question de Sarah. Sarah.
Pardon ?
Oui, je peux poser ma question par rapport à. Alors, voilà. Si j'ai bien compris, nous sommes le détail, nous incarnons le détail qui contient le tout et qui est là pour dévoiler sur Terre le bien qui rajoute la vie. Alors, la question que vous me posez, c'est ce que vous avez dit, en tout cas.
Non, je n'ai pas dit ça. On ne peut pas être un détail et contenir le tout. Je n'ai jamais dit ça.
Contenir le tout, ça veut dire, pour moi, enfin, peut-être que je m'exprime mal, c'est-à-dire avoir quand même, on est dans le temps et en même temps dans le non-temps. C'est-à-dire
exactement, mais ce n'est pas, voilà. Pas que je contiens le tout, je contiens une parcelle de ce tout, attention.
Oui, d'accord. Je contiens une parcelle de ce tout, parce que sinon je serais Dieu.
Exactement.
Voilà. Mais alors, la question que je me posais, c'était que nous allons aller de plus en plus vers cette lumière pour rejoindre l'infini. Alors, est-ce que nous avons...
Non, c'est cette lumière qui vient vers nous. On ne va pas vers cette lumière. C'est cette lumière qui vient vers nous.
La lumière vient vers nous, mais dans un projet, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais dans un avenir, ou un devenir qui va de plus en plus nous amener vers, retourner vers le 1. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu ce processus? C'est-à-dire, est-ce que nous existions déjà avant que nous soyons des créatures et que par la pensée, nous sommes devenus des créatures, mais que nous avons déjà été des créatures?
Tout à fait, c'est la Hakdama du Sefer HaZohar. nous étions, avant d'être ce que nous sommes ici, des Neshamot, une seule grande Neshama, qui ne voulait plus rester dans l'infini, béni soit-il, parce qu'elle recevait toute sa lumière gratuitement. Et elle a demandé à l'infini, « Trouve-moi une solution pour ne plus recevoir gratuitement cette lumière. Je veux bosser pour la recevoir. » Et c'est comme ça que Dieu a créé la vie et les hommes.
Arav, question de Sarah. Sarah, vous avez une question?
Oui, tout à fait. En fait, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur la teshuva d'Hachem. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, dans ce cadre de figure, si je comprends bien, ce n'est pas forcément évident, mais on n'est pas acteur dans cette teshuva. Cette teshuva, elle dépend de lui uniquement.
Tout à fait, elle dépend de lui. Tu n'as qu'un seul choix, de participer ou de laisser passer cette lumière sans toi, sans être acteur toi aussi de cette lumière. Tout à fait. C'est pour ça, c'est tout ça, c'est tout ce que vous dites. Ça ne devrait pas vous gêner parce que c'est la sortie d'Égypte. Ceux qui ont voulu acheminer la lumière de Dieu, donc devenir acteur de la lumière de Dieu, ont accepté de sortir d'Égypte. Ceux qui ont voulu rester en Égypte ne voulaient pas être acteurs de ce programme, de ce projet, et donc on n'entendit plus parler de ces gens-là. C'est fini.
Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, notre teshuva en tant qu'être humain, c'est donc accompagner ce mouvement.
Exactement. Comme s'il y avait un grand fleuve qui déferlait, et toi, tu prends une petite barque et tu te mets dans ce fleuve et tu circules dans la même direction que ce fleuve. Et tu peux même amplifier le mouvement avec des rames. Exactement ça. Okay. Vous comprenez que c'est beaucoup plus normal et sain de réfléchir de cette manière-là.
Alors, une dernière question, Rav. Comment se fait-il qu'à l'époque des grands kabbalistes, je viens de lire une sorte de biographie du Arizal, et c'est juste extraordinaire. En fait, ces grands kabbalistes, ils avaient une connexion avec le monde, le Olam Haba, et ils pouvaient en fait faire des allers-retours entre le Olam Haba et le Olam Hazé.
Mais même vous, ma chère madame.
Ah bon?
Votre Olam Haba, c'est votre Neshama. Si vous aviez la capacité d'entendre la Neshama qui, elle a tout le film en tête et de revenir traduire ce que vous entendez chez votre Neshama dans votre corps, eh bien, vous reliez le Olam Haba à ce Olam Hazé. Vous faites vous aussi le voyage. Bien sûr, c'est exactement ça. Vous croyez qu'il voyage dans l'espace pour aller vers un degré qui s'appelle Olam Haba à 3600 km de la planète? Vous croyez qu'un astronaute est plus proche de Dieu que l'homme sur Terre?
Là, aux mêmes distances.
Alors, question de Fabienne. Fabienne?
Oui, bonjour, merci beaucoup. J'ai le micro allumé, oui?
Oui, vous avez le micro allumé, micro et Kodesh.
Je comprends qu'il est très très important de diffuser cette lumière par la Simcha, mais par contre je me pose une question, comment s'y prendre pour que cette lumière qu'on souhaite diffuser soit reçue par l'autre, parce que parfois elle n'est pas reçue, cette lumière elle est parfois bloquée.
Eh bien, il faut enlever les blocages, tous les blocages, c'est ce qu'on appelle les averot. Avonotechem hayu mavdilim beinchem u beini. C'est tout. C'est vos fautes qui font obstacle. C'est nos fautes qui nous dérangent à la circulation de la lumière. Donc, chaque fois que je faute, je crée un écran qui va en réalité rendre cette circulation imperméable. Donc, je m'étouffe moi-même, chas v'shalom. En faisant teshuva, je nettoie en fait, je permets la circulation du haut vers le bas.
Mais excusez-moi, je crois qu'elle parle des gens, non pas de Dieu.
C'est pareil. C'est exactement la même chose. Les gens qui ne reçoivent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une imperméabilité. Donc, il faut ouvrir cette imperméabilité. Il faut essayer de percer cet écran séparateur pour justement qu'il soit touché par le degré.
Et c'est bien ça le problème. Alors, cet écran séparateur, comment est-ce qu'on arrive à le lever ?
Eh bien, en étudiant, en allant vers les gens, en ayant des cours, pas seulement à ceux qui sont déjà dans la Torah, à ceux qui sont un petit peu moins, en tout cas, qui n'ont pas la chance de trouver tout ça. Donc, en parlant autour de soi, en voyant des gens qui ne sont pas très heureux, en essayant de raviver leur flamme, il y a plein de choses. C'est une éducation, en fait, de ce monde. Mais ça marche. La preuve, c'est que ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus proche de la Géoula Shlema. Il ne faut pas voir toujours le côté négatif comme on essaie de vous le montrer dans les journaux.
Araf, question de Meira.
Oui, Araf, s'il vous plaît. Moi, vous avez dit que l'infini vient vers le fini. Dieu vient vers nous. Mais quand on dit Ashri Ashri Veter, il y a un passage qui dit là que on va vers Dieu, que Dieu se rapproche de celui qui est proche de lui. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un mouvement vers lui.
Où est-ce que vous avez vu dans Ashrei Yoshvei
Betecha? Alors, je dois revoir le texte.
Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Ashrei Yoshvei Betecha, c'est au contraire, c'est heureux ceux qui s'installent dans ton bet. Betecha.
Non, plus loin. Karov ou Hachem, le Kol Korav.
Le Kol Korav, bien sûr. Qu'est-ce qui a marqué? Vous êtes plus proche de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui se rapproche de vous?
Il se rapproche, mais moi je dois me rapprocher de lui aussi.
Non, Karov, Hachem, le Kol Korav. Il n'y a pas marqué Atemit Karvim, Hachem. Ne traduisez pas. Dieu est proche à ceux qu'il appelle, donc qui sont avides, donc il le laisse les traverser.
Donc, ça vient un
mouvement. Donc, Atkoretlo, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sur place, tu es ici, et tu fais appel à lui pour qu'il te traverse. Donc, il est lui, Karov, à toi.
Par ma kirva.
Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est la kirva? C'est quoi? C'est juste une création d'un vide en toi. Ça, c'est le mouvement, en réalité. C'est un mouvement d'ouverture. Si je l'appelle, c'est que je me suis ouvert, c'est tout. Ce n'est pas moi qui vais, c'est lui qui vient.
Ok, c'est
bien. Sviharav, vous avez sûrement...
Attendez. Je vais faire les questions. Si vous avez une question, vous levez la main, parce que sinon on ne va jamais y arriver.
Ah oui, j'ai une question.
Question de Chaya.
Oui, j'ai plusieurs questions, parce que après tout ce qui a été dit, alors la première, c'est concernant cette grande âme, cette première âme qui n'a plus voulu recevoir gratuitement. Okay. Je ne comprends pas trop le processus, parce que d'un côté, cette âme-là, elle veut recevoir en méritant. D'un autre côté, Hachem y crée le monde en voulant donner que du bien. Alors, je ne vois pas, si lui, il veut que donner que du bien, ou il est le mérite, il veut encore on reste un peu dans l'état d'avant où il nous donnait. Et en même temps, l'âme, elle veut mériter. Donc, quand on va arriver ici, elle va se créer des souffrances pour pouvoir mériter. Je ne sais pas. Ou alors, c'est fuir le bonheur avant qu'il ne... C'est ça.
Le système, il est très simple. Vous le compliquez. Quand on est à l'intérieur de la lumière divine, on reçoit tout. Mais on n'a rien fait pour recevoir. C'est une situation insupportable. Donc, cette grande Neshama demande la création d'un monde dans lequel nous allons oublier. Et donc, dès qu'on est dans ce monde, dès que vous sortez du ventre de votre maman, vous oubliez. Et donc, vous devez faire un effort maintenant pour acquérir tout ce que vous avez reçu gratuitement. Et donc, votre effort dans ce monde, c'est de devenir de plus en plus porteur de ce message que vous avez reçu jusqu'à maintenant, gratuitement. C'est aussi simple que ça. Et donc, tous les efforts qu'on fait dans notre vie, ce n'est pas pour des souffrances, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous faire souffrir. C'est le système qui me met dans une situation où la mémoire n'est plus ce qu'elle était, parce que si elle était ce qu'elle était, eh bien, je reste encore coincé dans ce système où il me donne tout. Et je ne fais rien. Donc, je suis obligé d'être dans un monde où l'oubli existe pour que je fasse un effort de me souvenir. Mais cette fois-ci, cet effort, c'est mon travail. C'est tout.
Je peux dire un mot?
Vous pouvez dire même trois mots.
Non, non, d'accord. Non, puisqu'on parle des mots, tout simplement le pasuk Veshavta el Hashem Elokecha. Vous avez sûrement déjà expliqué, mais Veshavta el Hashem.
Non, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un verset comme ça.
Il n'y a pas un peu. Veshavta el Hashem Elokecha?
Non, il n'y a pas. Il y a Veshavta ad
Hashem Elokecha. Nakhon, ad.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ad? Ad Hashem Elokecha. Alors en français, ça ne veut rien dire, tu reviendras jusqu'à Dieu. Mais en hébreu, quel est le nom qui précède le deuxième nom? Il y a d'abord le tétragramme, Ad Hashem, et après il y a le nom de Elohim.
Mm-hmm. Bon?
Mm-hmm. Donc quel est le sens? Du haut vers le bas ou du bas vers le haut?
Du haut vers le bas.
Du tétragramme vers le nom de Elohim. Donc, être avec Dieu, ton retour, c'est quoi? C'est de ramener le tétragramme, c'est-à-dire le transcendant, dans l'immanent Elohim.
Chaya, si vous permettez, on va avancer sur les autres personnes et on reviendra vers vous si on a le temps parce que le Rav, à 12h30, il doit partir. Gabriel, tu as une question?
Rav, est-ce que l'oubli dont vous parliez il y a quelques instants, c'est finalement, ça ne serait pas ce Tzimtzoum? Pourquoi je dis ça? Parce que le Tzimtzoum, finalement, il n'y a pas de chinouï. Donc, s'il n'y a pas de chinouï, ça voudrait dire que le Tzimtzoum est subjectif, il n'est pas objectif.
Tout
ça
à
serait
fait.
Donc juste une capacité d'abstraction que Dieu inculque à l'homme pour lui
tout
permettre
tout
de mériter.
Tout à fait, vous avez tout compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'oubli fait partie de notre système pour nous permettre d'acquérir les choses. Et c'est pourquoi nous essayons de marquer le premier jour de l'année notre souvenir. Et donc, Rosh Hashanah va s'appeler Yom HaZikaron. Exactement ça. C'est exactement ça.
Il est indispensable.
Rabbin Messan, à vous la parole.
Comment vous pouvez nous expliquer Yeshayahu, là-bas, Kufre, 55, versets 6 à 7, où il dit de chercher l'Éternel parce qu'il est proche, et le verset 7 dit de retourner vers
Birchou, Hashem, Behimatzo.
Parce qu'il se laisse trouver.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouve Dieu quand il est déjà là.
Oui, voilà.
Ça veut dire ne va pas le chercher ailleurs. Birchu Hashem Beimatzo.
Comment chercher?
Chercher, ça veut dire tout simplement s'ouvrir. Quand je m'ouvre, en réalité, je crée un vide en moi. Donc, je suis avide. Si je suis avide, eh bien, on va me remplir. C'est ça, être avide. C'est je me creuse. Comment on dit poser une question en hébreu? She'ela. Qu'est-ce que c'est She'ela? She'ela, c'est un vide, un creux. Donc, quand je pose une question, je me creuse. Donc, quand toi, Kvod Harav, tu te poses une question, tu es en train de te creuser pour que je puisse remplir. C'est tout.
Dans le verset 7, il a dit Va'achav el Hashem. Va'achav de Hashem. Donc, il y a un retour, c'est toi qui vas vers lui. V'achav, elle, Adonai, elle. Elle, c'est une direction, Rav.
Non, lisez tout le verset, comment il dit. Lisez tout le verset.
Oui.
En hébreu, pas en français.
D'accord. V'achav, elle, V'achav, Otav. V'achav, elle, Hachem.
Il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu découvriras le Yudke Vavke, le tétragramme dans ta vie, eh bien c'est fini, tu seras guéri de tous les maux. C'est ça le secret.
Donc, mais là, comment le découvrir?
Il faut lire tout simplement que l'homme est limité. Oui. Si vous avez une quelconque intention d'aller quelque part, vers où vraiment vous pouvez aller? Vous allez... nous avons un grand commentateur de la Torah qui s'appelle le Shneluchot Abrit, le Rav Horowitz. On l'appelle le Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh, il dit que c'est tellement ridicule, j'utilise presque ces mots, d'aller, de vouloir aller vers Dieu, qui dit qu'on n'a même pas le droit de bouger et de lever les mains vers le ciel. Tout simplement pour montrer que ce n'est pas toi qui monte quelque part, mais que c'est lui qui vient vers toi. Et arrête de bouger et de te gesticuler quand tu fais ta prière. Comme ça, il dit.
On n'est que des corps. Que des corps.
C'est très fort, c'est énorme. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Si tu es devant un roi, eh bien, tu attends que le roi vienne vers toi. Donc, tu as fait le pas de demander un rendez-vous avec le roi. Mais tu es là, c'est lui qui t'accepte. C'est lui qui vient à ta rencontre. Mais c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui remplit ce monde. Toi, tu n'as rien à faire en dehors de ce monde. Mais tu dois tout faire pour que lui remplisse le tien.
Amen.
Amen.